Le groupe Pierre Fabre est un partenaire historique de l'Université de la e-Santé. Cette année encore, il parrainera les trophées de la e-Santé qui récompensent les startups les plus prometteuses. Et Éric Ducournau, son directeur général, donnera une keynote en introduction de la remise des trophées. Comme beaucoup des industriels du secteur, Pierre Fabre investit le terrain du numérique en santé en nouant des partenariats avec des startups sur les trois grands secteurs d'activité sur lesquels le groupe est présent. Alors à l'approche de l'Université de la e-Santé qui se tiendra à Castres les 27 et 28 juin, on s'est entretenu avec Olivier Sigler, directeur de l'accélération digitale et des systèmes d'information, pour évoquer avec lui la forme que prennent ces partenariats, pour qu'il nous donne quelques exemples concrets, et surtout pour qu'il nous donne sa vision des enjeux autour de la e-santé. Bonjour Olivier Sigler, merci de m'accueillir.
Ben bonjour, bienvenue ici.
On est dans l'un des nombreux sites Pierre Fabre, ici à Castres, la région historique de Pierre Fabre. Finalement, c'est là que vous êtes installé, y compris l'ensemble de l'organisation.
Oui, une grande partie de l'organisation est entre Castres, Lavaur, en tout cas dans le Tarn, le sud-ouest, dirons-nous.
On va parler du numérique et du rôle du digital, du numérique de manière générale pour Pierre Fabre, mais pour redonner peut-être le contexte, vous pouvez nous parler des aires sur lesquelles Pierre Fabre a l'intention de se développer, est déjà présent ou sur lesquelles a une activité prioritaire?
Oui, au-delà des médicaments traditionnels, on a trois aires de développement majeures qui sont l'oncologie, la dermatologie et bien sûr la dermocosmétique. Peut-être pour revenir au numérique, chacun a sa définition. Nous, on a une vision assez large du numérique, hein, à la fois des solutions digitales, de mobilité, de self-service, de connexion avec tout l'écosystème, hein, que ce soit les clients, les partenaires, les fournisseurs. Il y a aussi pas mal d'applications basées autour de l'usage de la data. En fait, c'est un peu tout ça, avec quelques mots-clés, hein, le connecté, l'agile, le self-service, le data-driven, etc. Et du coup, nous, on l'utilise dans pas mal de domaines aujourd'hui, en fait, hein, à la fois pour les employés, à la fois pour les professionnels de santé, les patients, les collaborateurs, également dans nos usines, également notre R&D. Donc, c'est assez vaste comme sujet quand on parle de digital chez Pierre Fabre.
On va prendre des exemples un peu plus tard, mais avant, puisque vous parlez de professionnels de santé et de partenaires, une partie des partenaires avec lesquels vous travaillez pour développer de nouveaux outils, de nouvelles solutions, ce sont les startups. Comment est-ce que ces partenariats se forment? Comment est-ce que vous structurez un petit peu la collaboration avec des startups ou d'autres éditeurs de solutions?
Aujourd'hui, en fait, on a une approche assez pragmatique. On travaille sur des besoins qui viennent de ce qu'on appelle nos franchises, hein, nos aires thérapeutiques en quelque sorte, sur lesquelles on travaille. Et sur la base de ces besoins, de cette réflexion du parcours patient, de ce qu'on peut apporter à nos patients, on va chercher assez largement dans le monde, à travers de pitch, des startups qui apporteraient de la valeur. Et après, on a un travail de collaboration qui se noue. On a quelques acteurs chez nous qui sont très spécialisés là-dessus, qui ont beaucoup travaillé avec eux. Et on travaille sur projet, donc on accompagne sur des projets qu'on monte ensemble. Et donc, c'est ce lien assez étroit, assez centré sur un projet qui fait la valeur.
Est-ce qu'il y a une ambition pour Pierre Fabre de développer vous-même vos propres outils numériques ou de rester dans ce rôle d'accompagner ou de partenariat avec des startups?
Alors aujourd'hui, nous, on fait des choses très simples, en fait, hein. On a une équipe on appelle le Tech Lab chez nous, qui est capable de développer des applications. On a fait des choses en neurologie tout simple pour le suivi des patients, mais assez simple. Dès qu'on arrive sur des choses plus profondes en termes de technologie, ce n'est pas notre métier. Et en fait, on n'a pas vocation à multiplier par nous-mêmes ce qu'on appelle la deep tech ou la technologie très profonde. Donc là, on a vraiment besoin d'une complémentarité avec des gens dont c'est le métier, qui investissent dans la durée, qui font évoluer leurs solutions. Chose qu'on aura du mal, nous, à faire au quotidien.
On va peut-être prendre un exemple. Vous avez dit que l'intérêt pour vous du numérique se situe à plusieurs niveaux, des employés, la relation avec les professionnels de santé, la relation avec les patients ou les consommateurs, ou la R&D. Est-ce qu'on a des exemples ou un exemple, en particulier dans la relation avec les patients, d'une collaboration que vous avez mise en place, d'un outil qui a vu le jour, et puis après, on peut rentrer dans le détail de comment ça s'est fait, sur combien de temps, et ainsi de suite?
On a plusieurs exemples, hein. On va prendre peut-être un exemple tout récent qui est en train de se faire, hein, pour être assez concret, sur une application qu'on a développée qu'on appelle Eczema Care. On travaille avec une société espagnole qui s'appelle Legit Health pour mettre en place un système pour, en quelque sorte, scorer, objectiver le niveau des crises d'eczéma que peuvent avoir les patients. Et donc, avec le système qui est base d'une petite intelligence artificielle. On qualifie un peu le niveau de la crise, ce qui permet aux patients aussi de doser ses propres gestes ou les premiers éléments à faire, et puis de discuter avec son dermato, puisque au final, c'est le dermatologue qui est vraiment son interlocuteur, d'objectiver un peu ça. Il y a beaucoup de difficultés finalement à expliquer le niveau de crise dans lequel on est. Et en fonction de la puissance des crises, on a vraiment des façons de réagir assez différentes sur l'eczéma. Donc c'est vraiment quelque chose qui le suit, c'est à la fois la détection du diagnostic et du suivi pendant ces périodes-là. Et donc c'est un complément important pour le patient, au-delà des produits qu'on peut lui délivrer, qui l'aident dans cette phase critique.
Donc là, on est dans cette démarche où vous avez déjà un produit ou des produits disponibles dans cette ère de la dermato. Vous étendez un petit peu la relation que vous avez avec le patient en allant jusqu'à cet outil de suivi du traitement, finalement.
Exactement. D'ailleurs, c'est ça que les patients deviennent beaucoup plus acteurs dans le processus thérapeutique dans lequel ils s'inscrivent pour guérir. Et je pense que ça a un effet aussi de réassurance pour le patient, parce qu'il est souvent assez seul face à sa difficulté. Et donc, au-delà des produits qu'on lui donne, il maîtrise mieux sa maladie, qui est une maladie assez complexe. Et du coup, je pense que c'est très bénéfique pour les patients.
Donc, cette application, les professionnels de santé sont les prescripteurs pour aller toucher les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des cas de figure où le professionnel de santé, dans d'autres outils, est l'utilisateur final?
Oui, alors tout à fait. Je pense à une application avec laquelle on vient de travailler, une start-up française qui s'appelle Clinéo, qui a un rôle très particulier dans le monde de l'oncologie, donc du cancer, pour faciliter l'accès aux études cliniques en cours. Donc là, il s'agit de patients qui cherchent un peu les traitements de pointe, les nouveaux traitements. Et c'est vrai que l'accès à l'information pour les médecins est assez complexe aujourd'hui, puisqu'il y a une base partagée, mais savoir vraiment en fonction des critères du patient d'une part et de l'ensemble des cliniques en cours d'autre part, trouver les bons centres de traitement, c'est assez compliqué aujourd'hui. Et donc, on a démarré un partenariat avec la start-up Clinéo sur ce sujet. Dans une étude clinique qui touche 800 personnes dans le monde, ça peut être vraiment un outil pour nous et un outil pour les médecins.
Oui.
Après, dans les autres programmes, par exemple, sur le cancer colorectal, on a travaillé avec une association de patients, en fait, pour finalement répondre à des besoins qu'eux-mêmes vivaient, remontaient, et être capable de trouver toutes les bonnes explications, la bonne formation, l'information, pour aider le patient face à toutes les questions qui se posent dans cette maladie. Donc, on a développé, avec une start-up qui s'appelle WeFight, une solution avec un pilote en Espagne, qu'on est en train de déployer ailleurs. Et on s'est appuyé sur l'association de patients pour la promouvoir auprès des malades.
Et alors, typiquement, un exemple comme celui-ci, ce sont des partenariats qui durent plusieurs années, le temps d'aller sur le marché avec la solution en question et peut-être le temps de l'évaluer, ou en tout cas d'évaluer son retour commercial.
Oui, alors, sachant qu'ils ne sont pas commercialisés, c'est vraiment des produits qui sont distribués, c'est une aide aux patients. Effectivement, il faut voir l'adoption, parce qu'une des clés, c'est l'adoption, en fait, soit par les médecins eux-mêmes, soit par les patients eux-mêmes. Et comme il y a un paysage très morcelé de toutes ces applications, ce n'est pas évident de savoir jusqu'où on doit investir. C'est vrai que les médecins, aujourd'hui, sont très sollicités là-dessus et ont parfois soit des réticences naturelles ou en tout cas... ne trouvent pas encore complètement leur place sur la promotion ou l'usage de l'ensemble de ces compagnons par rapport à la vie des patients. C'est une question d'adoption qui est une vraie question compliquée avec nos partenaires médecins. En fait.
Oui, et puis il y a une question de nombre aussi, c'est-à-dire que le nombre de solutions digitales qui arrivent, il y a une espèce d'overdose, entre guillemets, de saturation peut-être du côté des médecins.
Tout à fait. Donc il faut être très modeste d'abord, je pense, et vraiment choisir des applications, des dispositifs digitaux qui sont très pertinents pour le patient déjà et qui apportent beaucoup de valeur. Et je pense que quand la valeur est claire, tout le monde adhère. Mais il peut y avoir des choses qui sont un peu confuses, où on se cherche un peu et dans ce cas-là, on peut vite être saturé effectivement de propositions qui ont peu ou pas assez d'impact. Donc il y a vraiment un ciblage qui est important à faire et c'est une des difficultés pour nous en tout cas pour savoir jusqu'où aller et comment choisir les bons combats.
Quel que soit le processus de R&D par lequel on passe, il y a toujours un temps de développement qui est long et c'est difficile de savoir à l'avance comment le produit va arriver sur le marché, comment il va être perçu. Mais une fois qu'on a des données cliniques, on a un meilleur, peut-être un argumentaire en disant en tout cas. Est-ce que l'incertitude qui règne autour de ces solutions digitales en termes d'adoption, En termes de remboursement. On ne sait pas à l'avance si ça va être remboursé et donc si ça va faciliter l'adoption. Est-ce que ça vous bloque quand même dans la vision que vous pouvez établir à plusieurs années sur l'ambition que vous avez pour utiliser ces solutions digitales ?
C'est sûr qu'on s'interroge sur jusqu'où on veut aller autour de ces solutions digitales. À un moment donné, je pense au tout début, on s'était dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux médicaments sans solutions digitales, c'était absolument indispensable. Avec le temps, avec le recul, on sent qu'il y a des sujets sur lesquels ça apporte beaucoup de valeur au patient, dans son quotidien, dans le traitement de sa maladie, dans son parcours de soins. Et là, ça vaut vraiment le coup. Et d'autres, où c'est plus compliqué, où la réponse n'est pas digitale, elle est purement médicale dans le parcours de soins. Et du coup, c'est des choix qui sont encore en cours de maturation chez nous et d'évolution avec le temps, en fait.
Ouais. Est-ce que néanmoins, il y a une course au digital, vous sentez, dans le secteur ? Ou au contraire, est-ce que tout le monde est quand même encore un peu dans cet esprit de « on attend de voir » parce qu'on a bien vu que dans certains cas, ce n'était pas toujours la solution malgré les ambitions du départ ?
Je pense que la e-santé est un domaine en explosion, très forte. Mais en tant que laboratoire, la place qu'on doit vraiment prendre n'est pas encore entièrement calée. Je pense qu'il y a d'autres domaines de e-santé, surtout la télé-expertise, les télésoins, la lutte contre les déserts médicaux, les parcours de soins, la capacité à mieux accompagner parfois les patients dans le vieillissement à domicile. Il y a des univers qui sont très importants. Pas forcément complètement pour les laboratoires. Pour les laboratoires, c'est un peu différent, je pense, et la place est à nuancer et sur lequel il faut avoir sans doute un peu de clairvoyance pour savoir vraiment où aller.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a quand même, au-delà des laboratoires, tout un espace très très large dans lequel peut se développer la e-santé.
Ouais. Fin juin aura lieu l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet, dont Pierre Fabre est partenaire historique. Qu'est-ce que vous attendez de ce type d'événement ?
Alors, c'est un événement qu'on a le plaisir de suivre chaque année en plus à Castres. Donc pour nous, c'est vraiment une aubaine. C'est à la fois très enrichissant par les thématiques qui sont abordées, les conférences, les débats, souvent avec des axes qui sont des prises de position, des oppositions, des points de vue contradictoires. Donc c'est très enrichissant. Et puis, il y a aussi des rencontres avec justement des startups, des professionnels de la e-santé qui ouvrent des champs des possibles, donnent des idées, envisagent des collaborations. Et pour nous, c'est une façon de rester vraiment proche de cette e-santé qui est très mouvante, qui évolue très vite. C'est vraiment une opportunité très intéressante pour nous.
Merci Olivier Sigler.
Merci Nicolas.
Cette question de l'adoption du numérique en santé, elle sera centrale cette année dans les débats qui auront lieu à l'Université de la e-santé. Parce qu'à l'échelle de notre système de santé, on peut avoir toute l'infrastructure qui permet aux outils de se parler entre eux, on peut s'appuyer sur la puissance publique pour évaluer les innovations, on peut tenter de digitaliser le parcours de soins et l'expérience patient, c'est ce qu'a fait la clinique Pasteur avec succès. Mais pour que la e-santé tienne véritablement ses promesses, les outils numériques doivent être adoptés par les usagers. Encourager cette adoption est devenu un enjeu central. C'est une question qu'on a bien évidemment creusée dans ce podcast avec les précédents invités. Alors n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour débattre de cette question en chair et en os, rendez-vous à Castres les 27 et 28 juin au Summer Camp de l'Université de la e-Santé. À bientôt !